Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty
International.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International Évreux pour sa première émission du mois d'octobre pour la promotion et la défense des droits humains. Une heure pour en parler, comme deux fois par mois, sur l'antenne de Principe Actif le mardi soir. Et pour animer l'émission avec moi ce soir, il y a Edith.
Bonsoir.
Et il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Voilà, donc pas mal de sujets encore hein, pour ce soir, pas mal d'informations diverses. Et donc surtout ne quittez pas l'antenne avant 20h, sinon vous manqueriez des choses très importantes. Voilà.
Mais on peut nous réécouter après quand
oui,
même.
Oui,
voilà,
sûr.
Mais restez avec nous, ceux qui sont déjà branchés Principe Actif
bien
ce
sûr,
soir.
Bien sûr, il y a les podcasts sur le site de la radio, mais c'est pas mal aussi de nous écouter en direct, live, comme on dit. Voilà. Bon, pour commencer l'émission, je voulais juste dire un petit mot. Hier, 10 octobre, c'était la journée internationale contre la peine de mort. Un des grands combats d'Amnesty depuis des dizaines d'années, voilà. Bon, il y a de plus en plus de pays dans le monde, malgré tout, qui ont aboli en droit ou en pratique la pratique de la peine de mort. Mais bon, il faut pas du tout lâcher le combat pour autant, bien évidemment. Et je vais vous lire un petit extrait de l'édito de notre président Jean-Claude Sabouillet, qui est paru dans la dernière chronique. La chronique, c'est le mensuel d'Amnesty France. N'hésitez pas à vous abonner sur le site amnesty.fr. Voilà, je vous en lis juste un extrait. Alors, il parle de la peine de mort et il dit que la situation en Iran est effarante. Entre le 1er et le 30 juin 2022, 251 personnes en Iran ont été exécutées. Si les exécutions se poursuivent à ce rythme, elles dépasseront bientôt le total recensé pour l'ensemble de l'année 2021, qui était déjà une année record avec 314 exécutions. La peine de mort s'applique à de nombreuses infractions dans la République islamique, notamment les crimes financiers, le viol et le vol à main armée. Sont également passibles de la peine capitale des activités protégées par le droit international relatif aux droits humains, telles que les relations sexuelles consenties entre personnes du même sexe, les relations sexuelles extra-conjugales et les propos considérés comme un outrage aux prophètes de l'islam. Ainsi que les infractions formulées en termes vagues, telles que l'inimitié à l'égard de Dieu ou la diffusion de la corruption sur terre. Voilà. Bon, il continue, Jean-Claude Sabouillet, donc continue l'article en parlant également de la prolongation de la peine de mort en Afghanistan, enfin la pratique de la peine de mort en Afghanistan, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, en Mauritanie, au Qatar, au Nigeria. Tiens, le Qatar, la Coupe du Monde. Le Nigeria, le Pakistan, la Somalie, le Yémen, etc., etc.
Et la Chine.
Et la Chine, bien sûr. Et on parle plus loin, la Chine, la Corée du Nord, le Vietnam, la Chine qui va exécuter, on pense annuellement plusieurs milliers de personnes, mais aucun chiffre.
Elles sont très très secrètes.
Aucun chiffre n'est disponible. Et Jean-Claude termine son texte, et je terminerai par là aussi. La lutte pour l'abolition universelle de la peine de mort est au cœur de notre combat. Nous ne devons pas baisser la garde, y compris dans les pays abolitionnistes. Les droits humains ne sont jamais acquis. Les défendre, c'est les protéger. Voilà. C'est un beau slogan pour l'émission, c'est les droits humains ne sont jamais acquis, les défendre, c'est les protéger. C'est pour ça qu'on est à la radio aussi. Et donc, puisqu'on parlait de l'Iran à l'instant, et qui exécute beaucoup de personnes pour des raisons diverses, je crois qu'il y a Claire-Lise qui veut nous en parler aussi de l'Iran.
Oui, bah je continue mes chroniques vous savez, il y a 15 jours, je vous ai parlé des femmes iraniennes, et la semaine d'avant, je vous parlais des femmes en Afghanistan, et de leur révolte et de leur courage pour exprimer leur opposition aux lois des talibans. Donc en Iran, depuis le début des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, les autorités iraniennes déploient leur stratégie répressive pour étouffer les manifestations hématées, toute remise en cause de leur pouvoir. Donc là, je vais vous décliner un petit peu un article de la chronique d'Amnesty International. 6 méthodes de répression des autorités contre les manifestantes et les manifestants. La première méthode, numéro 1, réprimer dans le sang les manifestations, c'est-à-dire tuer. Nous avons eu accès à des documents officiels attestant que la plus haute instance militaire iranienne a donné pour instruction aux commandants des forces armées de toutes les provinces de confronter sévèrement les manifestants descendus dans la rue. En d'autres termes, les autorités ont sciemment décidé de blesser ou de tuer. Des vidéos que nous avons analysées montrent les autorités tirer à balles réelles sur les manifestants et nos enquêtes révèlent également des preuves de l'usage généralisé de la force meurtrière et des armes à feu par les forces de sécurité iraniennes. Le 30 septembre est le jour le plus meurtrier que nous avons documenté depuis le début des protestations. Rien qu'à Zahedan, à l'est du pays, où une manifestation a eu lieu après la prière du vendredi, au moins 66 personnes, dont des enfants, ont été tuées par les forces de sécurité iraniennes. Parfois habillées en civil, elles ont ouvert le feu sur les manifestantes et les manifestants à partir des toits des maisons. Un vendredi sanglant. Depuis le début des protestations, on compte au moins 82 morts, rien que dans la ville de Zahedan, mais le bilan humain pourrait être bien plus élevé. La deuxième méthode, c'est restreindre l'accès à Internet pour mieux enrayer les manifestations. Les autorités iraniennes ont sévèrement restreint l'accès à Internet et aux réseaux mobiles pour tenter de contenir les rassemblements des manifestants et pour poursuivre leur répression à l'abri des regards. Il s'agit des restrictions les plus drastiques depuis 2019. Instagram, le réseau social le plus utilisé en Iran, est drastiquement limité, ainsi que WhatsApp, LinkedIn et Skype. Quant à YouTube, Twitter, Telegram, TikTok et Facebook, ils étaient déjà interdits depuis plusieurs années en Iran. Les autorités iraniennes ont désormais couramment recours aux coupures d'Internet pour contrôler l'information. Elles empêchent ainsi le partage d'informations entre les citoyens et la documentation par les organisations internationales et locales des violations des droits humains. Avec ces restrictions d'accès à Internet, aux réseaux sociaux et aux réseaux mobiles, et donc il est très difficile d'obtenir des images d'Iran. La répression se passe à huis clos. Troisième méthode pour réprimer les femmes à travers des violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire attaquer les femmes. Dans ce mouvement de protestation, les femmes iraniennes sont en première ligne. Les forces de sécurité ont violemment attaqué et agressé sexuellement plusieurs manifestantes, avec notamment des cas où les femmes se sont fait agripper les seins ou tirer violemment les cheveux après avoir enlevé leur foulard. Face à cette répression sans nom, elles restent debout et continuent de protester courageusement contre la brutalité du régime. Certaines enlèvent leur voile dans la rue et vont même jusqu'à le brûler. Pour les femmes qui font ce geste symbolique, elles s'exposent à des peines de prison. Rappelons qu'en Iran, la loi discriminatoire sur le port obligatoire du voile est en vigueur depuis la révolution islamique de 1979. Les forces de sécurité passent à tabac des manifestantes et des passants. Elles ont commis d'autres cas de torture et d'autres mauvais traitements qui sont devenus des pratiques généralisées. Quatrième méthode, faire taire la jeunesse iranienne en ciblant les étudiants. Donc le mouvement de protestation déclenché depuis la mort de Mahsa Amini est essentiellement porté par la jeunesse iranienne. Femme, vie, liberté, les étudiants préfèrent la mort à l'humiliation, scandaient les étudiants rassemblés devant l'une des universités les plus prestigieuses de Téhéran. La police anti-émeute a violemment réprimé le rassemblement en tirant des balles d'acier et des gaz lacrymogènes contre les manifestants et contre les étudiants. De nombreuses vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant les forces de sécurité s'attaquer au campus universitaire. Des images de chaos et de violence qui montrent la brutalité des méthodes employées par les forces de sécurité iraniennes. Cinquième méthode, arrêter toutes les personnes critiques au pouvoir. Depuis le début des manifestations, des centaines de personnes ont été arrêtées. Journalistes, militants, intellectuels, artistes. Parmi eux, le chanteur pop iranien Servin Yadjipour, qui est devenu une cible à faire taire pour les autorités, car c'est lui qui a composé la chanson Biraoué pour en persan, dans laquelle il rassemble les revendications des manifestants depuis la mort de Mahsa Amini. Vue plus de 40 millions de fois en 48 heures sur les réseaux sociaux, sa chanson s'est transformée en l'hymne des protestations. Elle est aujourd'hui chantée dans les rassemblements aux quatre coins du monde. Et la sixième méthode, c'est diffuser des fausses informations sur les manifestantes. Diaboliser les manifestantes et les manifestants. Donc, dans le but de se décharger de toute responsabilité, les autorités iraniennes ont diffusé de fausses informations via des rapports ou des vidéos de propagande pour incriminer des manifestants pacifistes tués lors des rassemblements. Ils les ont qualifiés d'individus dangereux et violents et affirmé que les manifestants avaient été tués par des émeutiers. Les autorités ont également intimidé et harcelé les familles des victimes pour qu'elles se taisent. Parmi les méthodes employées, les autorités promettent une indemnité financière si les familles enregistrent des vidéos attribuant la responsabilité de la mort de leurs proches à des émeutiers œuvrant pour des ennemis de la République islamique d'Iran. Face à la répression du régime, la contestation des Iraniens ne s'essouffle pas. Nous sommes à leur côté et nous leur apportons tout notre soutien. Nous appelons les membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à mettre en place de toute urgence un mécanisme d'enquête indépendant sur les exactions en cours en Iran. Et donc, je voulais aussi vous appeler à signer une pétition qui est sur le site d'Amnesty International. Manifestez-vous pour la jeunesse iranienne réprimée. Donc, les manifestations qui ont éclaté en Iran en réaction à la mort en détention de la jeune femme de 22 ans, Mahsa Amini, sont réprimées dans la violence par les autorités iraniennes. Il faut appeler la communauté internationale à agir dès à présent. Donc, la colère exprimée dans les rues montre ce que les Iraniennes et les Iraniens pensent de l'omniprésence de la police des mœurs et des lois abusives et discriminatoires sur le port abusif du voile dans la République islamique d'Iran. À la vague de manifestations largement pacifiques qui a gagné tout le pays, les autorités répondent par la violence et tirent à balles réelles sur les manifestants. La crise de l'impunité qui sévit en Iran a enhardi les autorités iraniennes qui n'ont pas hésité à tuer des centaines de manifestants et à infliger des actes de torture et autres mauvais traitements à des milliers d'autres au cours de ces dernières années, sans avoir eu à craindre les conséquences de leurs actes. Donc ce drame est un drame qui doit mobiliser la communauté internationale et il est temps que tout le monde s'y mette pour signer la pétition qui est en ligne. Donc c'est une pétition qui est sur le site d'Amnesty International France. Manifestez-vous pour la jeunesse iranienne réprimée. Donc, vous pouvez aller sur le site et signer cette pétition. Voilà.
Voilà, le site, c'est amnesty.fr.
Oui, mais je ne les retiens jamais, oui, ni les sites, ni les adresses mail.
Je rappelle pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et qui ne sont pas au courant, Amnesty avec un Y.fr. C'est le site de la section française.
Voilà. Et sur la section... Excuse-moi, vas-y. Sur la section belge d'Amnesty, oui. Il y a une pétition, puisqu'il y a deux jeunes femmes accusées d'être lesbiennes qui risquent la peine de mort en Iran. Et là, c'est la pétition, vous pouvez la signer sur le site belge.
Oui, j'en ai parlé à la dernière émission, voilà, j'ai demandé aux gens qui voulaient faire l'action urgente de la faire.
Elle est passée en plus sur les smartphones aussi.
Oui, elle est aussi en ligne sur le site d'Amnesty.fr, tout à fait. Voilà, et je crois que à propos de femmes,
ouais.
Edith avait d'autres nouvelles à vous donner.
Voilà,
pas en Iran, mais ailleurs.
Voilà, on a commencé enfin sur les articles qui nous intéressaient, dont on avait envie de vous parler aujourd'hui. Ben, on s'est dit, on est peut-être au mois de mars, hein, on ne sait pas trop parce qu'il y a pas mal.
On parle des femmes.
Il y a pas mal au niveau des femmes. Donc malheureusement, on va dire l'actualité montre un peu les complexités de leur vie dans certains pays. Donc là, moi, je vais parler de la Pologne par rapport à l'avortement. Et il y a une femme, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, Justyna Wydrinska, qui avait déjà, pour qui il y avait déjà eu un procès qui a commencé en avril, mais qui a été reporté en juillet et reporté. Et là, qui arrive, la prochaine audience, c'est le 14 octobre. Et là aussi, on est dans le cadre d'une urgence de soutien. Alors donc, Justine, Elle fait partie d'un collectif en Pologne, le collectif Abortion Dream Team, qui est là pour conseiller et offrir le soutien aux personnes, aux femmes qui en ont besoin. Elle se mobilise au quotidien pour les aider, parce que ce que demandent les femmes qui souhaitent avorter en Pologne, c'est être soutenues, accompagnées et avoir les bonnes informations. Mais l'État polonais et la justice ne sont pas du tout d'accord. Au lieu de valoriser le travail de ces associations, les autorités polonaises les harcèlent. Le procureur de Varsovie l'a accusé d'avoir aidé une femme à avorter illégalement en lui fournissant des médicaments. Et elle, Justyna, risque 3 ans de prison. Car la loi en Pologne rend l'avortement quasiment impossible. Résultat, des femmes sont mortes faute d'y avoir accès. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se sont mobilisées déjà en avril, quand on pensait que le dossier allait avoir lieu. Et Justyna a écrit un message pour toutes ces femmes en les remerciant du fond du cœur, en leur mettant que ça lui donnait force, car à ce moment-là, les jours à venir sont difficiles pour elle. La tension autour de cette affaire est énorme et je n'y suis pas totalement indifférente, mais mon cœur sera en paix lorsque je me tiendrai devant le tribunal. Je sais ce que je fais est juste. Si en soutenant l'avortement, je permets à quelqu'un de retrouver la sérénité, alors c'est une bonne chose. Voilà ce qu'elle disait en avril. Mais donc là, il nous faut aussi de nouveau montrer énormément de soutien. Donc c'est comme Claire-Lise, je vous propose d'aller sur le site d'Amnesty, de trouver son action. Donc ça a dû passer aussi sur des smartphones, mais on peut très bien, moi je l'ai fait avant de venir ici, accepter le mail que nous propose Amnesty. C'est très très simple, il suffit de dire son nom, et d'envoyer... se mêle aux autorités judiciaires polonaises, car on peut avoir un tout petit espoir si le procès a été différé plusieurs fois. C'est peut-être que les autorités polonaises sont un tout petit peu embarrassées, même si à la première audience, ni les ONG, ni les représentants des ambassades d'autres pays n'ont pu accéder à la salle d'audience. Mais quand même, il faut noter que le procureur général a le pouvoir d'abandonner les charges contre elle. Alors, allez sur le site, signez, faites du bruit et espérons que le 14 octobre, les charges contre elle seront abandonnées.
Tu peux nous rappeler son nom ?
Alors, Justyna Wydrinska. Alors, prononceur à la Edith, hein, je ne sais pas comment on prononce le... Il y a un W, il y a un Z, il y a un D, il y a plein de
choses.
Oui,
bah bien
sûr.
Mais
Justyna, ça me va bien, quoi, voilà.
Ok. Je pense qu'en tapant Justyna sur le moteur de recherche,
oui,
sur le site d'Amnesty,
on le trouve dans les actualités. Vous cherchez un petit peu et puis vous avez agir. À un moment sur l'article, vous avez agir. Et si vous cliquez sur agir, eh ben vous tombez sur ce mail qui vous est proposé à envoyer directement aux autorités polonaises. Je l'ai fait juste avant. Alors, c'est tout à fait possible.
D'accord, d'accord. Et je crois que tu voulais quitter la Pologne parce qu'il fait un peu froid pour aller dans un pays où il fait plus chaud, qui s'appelle la Grèce.
Ouais, je ne sais pas si les...
Je pense que le climat continental dans certains coins là, en haut de la Grèce, il fait relativement
froid. Il fait
froid
très froid l'hiver. Aussi, oui. On croit. Ouais.
Lesbos, là... c'est pas... Voilà. Non.
Et là, vraiment, c'est. Je vais vous lire l'intégralité de l'article qui est passé dans la chronique parce que à sa lecture, moi, j'ai été, extrêmement triste et très en colère et très révoltée. Donc l'article s'appelle Le calvaire des refoulés. Cet été, Athènes a refusé de secourir un groupe de migrants en danger et une fillette de 5 ans en est morte. Alors ça s'est passé en juillet, le 14 juillet, Maria, qui a 5 ans, et sa sœur Aya, qui a 9 ans, et ses parents font partie d'un groupe d'une trentaine de personnes qui a fui la Syrie pour demander asile en Europe. L'arrivée sur le rivage grec est violente. Des policiers les reçoivent en cognant si fort qu'un homme meurt sous les coups et ils les renvoient vers le rivage turc. Maria voit se noyer 2 garçons de 17 et 23 ans qu'ils ont jetés dans le fleuve. Repoussés ensuite par les Turcs, puis les refoulés échouent sans eau ni nourriture sur un îlot grec situé entre les deux pays, infesté de serpents et d'insectes. Une jeune, Baïda Al-Saïd, 27 ans, filme avec son smartphone les enfants qui pleurent, la terre et les mouchoirs utilisés pour filtrer l'eau du fleuve. le dos des hommes rougi par les coups de matraque. Baïda tweete les images. Les ONG humanitaires de la région alertent en urgence la police grecque et la Cour européenne des droits de l'homme, qui ordonne à Athènes de secourir les personnes et de respecter leur droit de demander l'asile. Dans la nuit du 8 août, un scorpion plante son dard dans la cuisse de Maria. La peau bleuit, Maria meurt avant l'aube. Sa sœur, piquée au bras, risque de succomber si elle ne rejoint pas un hôpital. Le gouvernement grec connaît le danger, mais refuse d'agir. Il prétend que le groupe est bloqué hors du territoire grec et qu'il est impossible à localiser. Pourtant, un GPS prouve le contraire. Athènes interdit tout accès à la zone de l'îlot, y compris à une fédération de médecins qui veut le rejoindre pour empêcher de nouveaux décès. Le 15 août, les rescapés trouvent un canot échoué et tentent une dernière fois de gagner la Grèce après avoir enterré Maria à la va-vite. Des policiers grecs leur tombent dessus et les enferment dans le camp pour migrants de Philakio. Aujourd'hui, les ONG humanitaires qui ont relayé le drame sonnent l'alarme. Lefteris Papadianakis, du Conseil grec pour les réfugiés, nous décrit. C'est un dangereux précédent. C'est la première fois que la Grèce abandonne des personnes en danger aussi longtemps. Et Nathalie Gruber, de l'association d'aide aux migrants Geosor, questionne le séparatisme impuni d'un membre, d'un pays membre de l'Union européenne. Tant pour le droit que pour la démocratie européenne, ce à quoi on assiste est effrayant. La Grèce n'obéit plus aux décisions de la justice européenne. Voilà.
Alors, quand même pour dire par rapport aux droits des migrants, il y a une grande hypocrisie de beaucoup de pays européens qui se frottent les mains parce que les migrants, ils arrivent d'abord en Grèce, ils arrivent en Italie à Brindisi et ils arrivent en Espagne ou au Portugal. Ils n'atteignent pas vraiment d'autres pays européens. Alors, on a beau dire, oui, la Grèce ne remplit pas, et effectivement, c'est une faute de ne pas avoir secouru ces personnes, mais la Grèce, elle est saturée de migrants qui arrivent de toutes parts et ils ont des camps qui sont remplis et par rapport à la France, il y a nettement beaucoup plus de personnes. Alors, faut dire qu'en Grèce, les gens qui sont dans des camps, ils ont de l'aide tant qu'ils sont dans des camps et qu'on étudie leur demande d'asile. Ils ont tellement de gens qui finissent par donner les titres de réfugiés, mais une fois qu'ils sont considérés comme étant réfugiés, ils se retrouvent à la rue et sans plus aucune aide. Et ils doivent trouver un logement, ils doivent trouver de la nourriture, ils doivent trouver un travail, et la plupart du temps, ils ne parlent pas le grec, et c'est un drame, et ces gens essayent de revenir vers les pays plus européens. C'était le cas de Caroline, hein, qui est de ses deux enfants, dont on a parlé début septembre. Voilà. Et c'est dramatique ce qui se passe en Grèce à tous les niveaux.
Est-ce qu'il faut dire, c'est vrai que l'article...
Mais il y a une hypocrisie de l'Europe.
Voilà. Voilà, mais l'article est désespérant. Mais c'est vrai que quand il y a eu les premiers arrivages de migrants, on va dire, sur la Grèce, il y a eu aussi le peuple était quand même beaucoup plus positif par rapport à ces arrivées, à les aidant. Moi, je me rappelle avoir vu des articles comme quoi les gens dans les îles aidaient vraiment. Et là, le problème, c'est que là, il y a vraiment, c'est tellement, comme tu dis, il y a trop. Et trop et trop, et il y a un sentiment anti-migrant qui est de plus en plus vivace dans la population. Mais là, c'est encore plus, c'est vraiment les autorités, et c'est le fait de ne pas du tout avoir obéi à la justice, quoi. C'est ça aussi qui est quand même une première, quoi.
Bah, ça aboutit à la mort de gens, quoi.
En plus, c'est clair. Voilà, là, c'est sûr que c'est vraiment l'horreur, quoi. On pense à la chaleur cet été, enfin bon, même pas, voilà.
Bien, eh bien, on va passer quelques minutes de musique et on se retrouve juste après.
Tu es le long des quais. guerre le long des villes de quart en quart. Tu essaies de t'enfuir et tu traînes toujours la même histoire. Tu as marché sans t'arrêter, loin de ta vie, loin du passé qui te poursuit, et tu avances seul dans le soir. Les jours précaires, les rêves des fées, toutes ces misères, ces cris glacés sont derrière toi. Ce soir t'y vas, mes amis, ciao ciao, mes projets, ciao ciao, mon pays, ciao ciao, ce soir je pars. Les jours gris, ciao ciao, mon frère, ciao ciao, mes amours, ciao ciao, vers mon histoire. Toutes ces frontières de barbelés, tous ces cercueils de liberté déchirent à peine et crachent sur la flamme de ton espoir. Tu voudrais vivre la vie, la vraie, celle qui enlace la dignité, loin du vacarme, et tu chantes toujours ton désespoir. Les jours de guerre, le cœur brisé, les nuits de peine à chavirer sont derrière toi. Ce soir t'y vas, mes amis, ciao ciao, mes projets, ciao ciao, mon pays, ciao ciao, ce soir je pars. Les jours gris, ciao ciao, mon frère, ciao ciao, mes amours, ciao ciao, vers mon histoire.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International pour la suite de son émission, et on vient d'entendre en fait une chanson d'une chanteuse que je ne connaissais pas du tout. Ça parle aussi des droits des migrants et des réfugiés et des raisons pour lesquelles on quitte son pays, et la chanteuse s'appelle Clémence Savelli et la chanson s'appelle Ciao. Voilà. On va après les informations assez un peu dures, même très dures qu'on vous a passées en début d'émission.
Une bonne nouvelle.
On va vous communiquer une bonne nouvelle. Il faut juste que je retourne la page de la chronique qui nous donne la rubrique de ces bonnes nouvelles, parce qu'on vous rappelle que dans la chronique, tous les mois, on a des bonnes nouvelles. Et oui, et ça nous aide beaucoup pour continuer à militer quand même, c'est sûr. Alors voilà, on va vous parler de bonnes nouvelles concernant le droit de l'avortement. Le droit de l'avortement, n'importe quoi. Le droit de l'environnement. Tout à l'heure, tu parlais...
D'être contaminé par notre côté féministe.
C'est ça, exactement. Donc ça se passe en Afrique du Sud, et ça s'appelle Shell Rotoké. La justice sud-africaine a confirmé l'interdiction pour le géant des hydrocarbures, donc Shell, de mener une exploration sismique au large de la White Coast Est de l'Afrique du Sud. Une victoire inédite pour des locaux et des écologistes qui craignaient de graves perturbations pour la faune marine. En tant que peuple de la côte sauvage, nous vivons de la terre et de l'océan. Le gouvernement nous dit que le pétrole et le gaz apporteront des emplois, mais nous savons très bien que cela détruira nos moyens de subsistance, a déclaré Non Muntumba du comité de défense local d'Amadiba. Les détonations des bateaux explorateurs perturbent les comportements des animaux marins ainsi que leur cycle de reproduction. Et là, en lisant cette petite nouvelle, je vais me rendre compte que Non Muntumba, Donc, ouais. La personne qui parle, c'est une femme. Et elle faisait partie des gens qu'on défendait dans la campagne 10 jours pour signer, comme tous les ans, au mois de décembre, il y a 2 ou 3 ans. Et c'était par rapport au fait qu'elle était menacée chez elle au niveau de son engagement pour le droit à l'avortement. Voilà. Elle nous avait signalé après qu'une protection lui avait été accordée.
Je pense que tu as encore dérapé sur le droit à l'avortement. Ah, c'était à l'environnement de son pays.
Ah, oh, bah, c'est un
Mais elle doit être d'accord aussi pour le droit à l'avortement.
Voilà.
Je pense.
Comme quoi, effectivement, on retrouve les mêmes personnes de loi en loi. Bon, moi, je vais enchaîner sur un autre sujet complètement, mais je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, parce que comme beaucoup d'entre vous, parmi les jeunes, il y a énormément de gens qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, je sais bien que Facebook n'est plus vraiment à la mode maintenant, et ça en perd de vitesse chez les jeunes.
C'est plus Facebook, c'est Meta.
C'est Meta, effectivement, l'ordre. Mais bon, et le sujet, c'est pourquoi, effectivement, Amnesty se mobilise contre Facebook et ce qu'il a fait. Et ce qu'il fait toujours en Birmanie, puisque ça a permis d'aboutir à un génocide. Alors voilà, je vais vous lire quelques extraits du dossier qui est paru sur le site d'Amnesty. Et là aussi, vous avez une pétition à signer, je vous en reparlerai à la fin. Le système algorithmique de Facebook a promu la haine contre les Rohingyas, on vous en a parlé des Rohingyas dans d'autres émissions, et a contribué ainsi aux atrocités commises par l'armée de Birmanie ou du Myanmar. Le 25 août 2017, plus de 700 000 personnes fuyaient le Myanmar, donc la Birmanie, pour le Bangladesh, pour échapper aux atrocités commises par les forces armées du Myanmar. Victimes d'une campagne de nettoyage ethnique, des milliers de Rohingyas ont été tués, torturés et des femmes violées. Avant ces atrocités, les algorithmes de Facebook ont favorisé de manière proactive la diffusion de messages d'appel à la haine et à la violence contre les Rohingyas. La déshumanisation de cette communauté musulmane s'est normalisée dans tout le pays. Conséquence, la haine virtuelle a contribué à la perpétration de violences dans la vie réelle. Alors, quelques citations de propos qui ont été tenues sur les pages Facebook en Birmanie, effectivement, avant le massacre des Rohingyas. Un général haut placé dans le gouvernement birman a déclaré: nous déclarons ouvertement et catégoriquement que notre pays n'a pas de race Rohingya. Une autre personne a dit: les musulmans sont des chiens, parce que les Rohingyas c'est une communauté musulmane en Birmanie, les musulmans sont des chiens qui doivent être abattus. Ça rappelle des choses absolument insupportables. Des messages d'incitation à la violence ont suivi. Ne les laissez pas vivre, éliminez totalement cette race, le temps presse. Là aussi, ça rappelle des choses, hein, dans l'histoire et dans différents pays, comme au Rwanda il n'y a pas si longtemps. Voici le type de message qui circulait au Myanmar, donc sur les pages Facebook. Et la plateforme de Facebook au Myanmar est omniprésente, car elle est perçue par la population comme une source d'information fiable. Pendant que l'armée du Myanmar commettait des crimes contre l'humanité, contre les Rohingyas, Facebook tirait profit de la caisse de résonance créée par ses algorithmes, conduisant à une hausse vertigineuse du sentiment de haine. Mais comment ces messages ont-ils pu échapper à la modération, entre guillemets, de Facebook, pire encore, être favorisés par la plateforme? La réponse est donc dans ses algorithmes. Les contenus les plus commentés, partagés, occupent une place privilégiée dans le fil d'actualité de Facebook. L'algorithme identifie un post comme suscitant de l'engagement et promeut sa diffusion et celle de contenus similaires. Ce qu'on appelle de l'engagement sur Facebook, c'est le nombre de gens qui vont réagir sur cette page ou sur ce commentaire. Et plus il y a de gens, plus ça intéresse Facebook, parce qu'il revend les coordonnées des gens à des sociétés financières, et c'est comme ça qu'il vit. Problème, ces publications qui font réagir peuvent promouvoir des messages de haine. Ces systèmes donnent en réalité la priorité aux contenus les plus incendiaires, car plus susceptibles de maximiser l'engagement, ce fameux engagement Facebook, les effets sont dévastateurs. Alors Facebook, il a la capacité de modérer les messages, mais uniquement 2% des discours de haine qui circulent sur sa plateforme, qui rassemble aujourd'hui presque 3 milliards d'utilisateurs dans le monde, sont effectivement filtrés. La modération peut réduire les discours de haine à une moindre échelle, mais ne peut pas les contrôler. Elle ne maîtrise pas l'implication des contenus haineux ou violents permis par les algorithmes. Voilà, donc après, effectivement, l'article continue. Bon, je vais pas tout vous lire, parce qu'effectivement, c'est suffisamment éloquent. Bon, mais il y a un point important qui est donné plus loin. Effectivement, là, on parle de Meta, comme disait Edith, puisque maintenant, Facebook s'appelle Meta, mais enfin, ça ne change rien.
Ça ne change rien.
Voilà. Et c'est qu'en fait, un certain nombre de population de Rohingya, voilà, j'avais un trou de mémoire. J'allais dire de Rohingya, mais je sais pas si ça se dit. Donc voilà, de population du Rohingya qui sont maintenant donc réfugiés en Bangladesh, se sont regroupés et portent plainte contre Facebook pour obtenir réparation. Donc il souhaite obtenir de l'entreprise des réparations via le financement à hauteur $1 million pour un projet d'enseignement dans un camp de réfugiés. Et Facebook, donc Meta, il a rejeté cette demande et il a avancé comme motif « Facebook ne participe pas directement à des activités philanthropiques ». Cette réponse montre la conception erronée que l'entreprise a de ses responsabilités en matière de droits humains. Voilà, donc cette demande de réparation $1 million, c'est peanuts pour Facebook, parce qu'on rappelle dans l'article que les bénéfices de l'an dernier de Facebook étaient estimés à $46 milliards. Donc voilà. Donc on vous demande effectivement, pour conclure sur ce sujet-là, donc on voit l'implication des réseaux sociaux comme Facebook pour attiser la haine et donc là aussi aboutir à la mort de milliers de personnes, de fait, même si ce n'était pas volontaire de la part de Facebook, mais sa façon de fonctionner aboutit à ça. Donc on vous demande de signer la pétition là aussi qui est sur le site d'Amnesty, hein, parmi les pétitions qui sera adressée à Facebook. Je pense qu'une pétition comme ça, si elle est signée par énormément de gens, comme Facebook, il a besoin du public pour vivre, hein, parce que effectivement, c'est viennent au poste en les commercialisant et en commercialisant les gens qui sont abonnés et qu'il vit. Donc, plus il y aura de gens effectivement à signer la pétition, plus ça peut lui faire du tort au niveau commercial et plus il risque effectivement de se dire on a peut-être quelque chose à faire par rapport à ce genre de choses. Voilà. Et nous, au niveau du groupe, pour information, au niveau du groupe d'Evreux, on va être sollicité là rapidement dans le courant de l'automne pour prendre rendez-vous auprès des députés, enfin, etc., susceptibles de soutenir aussi cette action-là, sachant que au mois de janvier, il va y avoir l'ouverture d'un cycle de conférences aux Nations Unies consacré aux droits humains et où il va être beaucoup question des réseaux sociaux. Donc Amnesty International va profiter de cette fenêtre, entre guillemets, pour mettre la pression. Et avant, on a un certain nombre de choses à faire. Mais au niveau du public, surtout déjà, signer la pétition pour demander des comptes à Facebook qui a de fait participer au massacre des Rohingyas en Birmanie. Voilà. Donc ça, c'était une information que je pense tout à fait intéressante et qui passe pas dans les médias, principaux.
Passe.
Voilà.
Et puis Facebook, ils font pas aussi une autocritique, c'est-à-dire ils mettent pas, ben là on s'est un petit peu planté. Voilà, on est peut-être aussi un peu porteur des haines éthiques et la problématique des algorithmes, c'est que ça peut très bien se retrouver dans d'autres pays qui malheureusement fonctionnent un peu avec des minorités ou des groupes qui sont pas forcément très très amis les uns les autres. Puisque ce système, c'est que ça devient exponentiel et à partir d'une info, elle est tellement relayée. Et c'est ça, à la limite, plus ça fait le buzz dans n'importe quel sens, que ça soit l'horreur ou un buzz rigolo ou je sais pas quoi, plus ça donne des sous à Meta, Facebook.
Voilà, plus ça intéresse Facebook, puisqu'effectivement, on fait du buzz et après, ils peuvent revendre les coordonnées des gens qui font du buzz. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Sans transition, comme on dit dans les médias.
Eh ben, c'est moi maintenant.
On va rester en Asie, puisque après la Birmanie, je crois qu'il va nous parler de Chine.
Je crois que tes façons de passer d'un article à l'autre, c'est un peu léger quand même.
Il y avait longtemps qu'on ne m'avait pas mis en boîte à la radio.
Ah là 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 là. Bon, alors moi, Chine, et puis franchement aussi, un article paru dans la chronique pour une personne dont je connaissais le nom et que je trouve, par rapport à nous, petits militants des droits humains en France, on est vraiment des tout petits rigolos. Et là, c'est vraiment des personnes de sacrée pointure dans la défense des droits humains. Donc, il s'appelle Yu Wenchen, c'est un avocat et c'est devenu la bête noire du régime chinois. Et rien ne semble détourner Yu Wenchen de sa mission. Ni la persécution politique, ni la détention, ni même la torture. Cet avocat pékinois, l'une des voix les plus critiques du régime chinois, plaide publiquement pour un état de droit. Et si on n'en parle pas, c'est pas la Chine qui fera sa pub, là c'est sûr non plus. Alors cet homme-là, il est né dans une famille de hauts responsables. Il a eu un peu la chance, enfin son père travaillait, était un ancien militaire, et après il a travaillé dans l'agence de voyage qui était chargée de l'accueil des invités étrangers. Donc son père pouvait ramener des journaux de Hong Kong, des choses comme ça. Et lui, il a eu ça rapidement, mais il aurait pu ne pas s'y intéresser plus. Et en fin de compte, en 2002, il suit des études de droit civil. Et une décennie plus tard, il fait ses gammes en défendant la liberté religieuse des membres de l'église chrétienne de Tuzhou, en Chine, je vous rappelle. Tout culte échappant au contrôle du parti est illégal. Mais c'est son soutien au mouvement pro-démocratie de Hong Kong qui va vraiment attirer sur lui les foudres des autorités chinoises. En 2014, il défend un militant hongkongais qui est emprisonné en Chine. Il essaye d'aller le voir en prison. Il n'arrive pas à aller le voir, mais c'est lui qui se retrouve derrière les barreaux. Trois jours plus tard, il sera relâché, mais il aura été torturé. Comment faire arrêter un avocat pour la défense des droits humains? Mais ça marche pas du tout avec Yu Wensen. La violence de sa détention n'est pas dissuasive. Elle ne fait que renforcer son engagement pour la liberté de penser, de s'exprimer. L'avocat accepte ainsi des affaires ultra sensibles, comme celle du Falun Gong, considéré par Pékin comme une secte. Alors, bon, ça date déjà un petit peu, c'est de 2015. Falun Gong, c'était un groupe, on va dire, religieux de gens, qui n'avaient pas forcément d'affaires au niveau du régime chinois, mais qui étaient complètement dans le viseur de la Chine. Donc, lui, il défend les avocats qui défendent les membres de cette secte Falun Gong. Et il prend leur défense. L'un de ses clients purgera une peine, donc un avocat, hein, une peine de 4 ans et demi de prison. Beaucoup d'autres sont placés en résidence surveillée dans un lieu désigné pour 6 mois, sous prétexte d'incitation à la subversion. Cette mesure, en quelque sorte, rend légale les disparitions forcées, car la plupart de ces détenus n'avaient pas accès à un avocat et ignoraient s'ils seraient jugés. Et c'est cette peine qui va être aussi infligée à Yu Wensen après son arrestation le 19 janvier 2018. Arrestation violente. Il descendait de chez lui pour emmener son garçon à l'école et il a été entouré par des personnes. Il est tombé, ils l'ont blessé et il s'est évanoui et il s'est retrouvé dans la voiture de la police. La veille, en plus, il faut dire que l'avocat avait publié en ligne une lettre ouverte condamnant le tour de passe-passe du régime qui s'apprêtait à lever tout obstacle pour un troisième mandat du président Xi Jinping. Alors que la Constitution de 1982 stipule en effet que le président de l'État ne peut exercer plus de 2 mandats de 5 ans consécutifs. Donc ça, effectivement, ça n'a pas dû plaire à l'État chinois. Et aussi, il appelait dans cette lettre à une élection concurrentielle pour élire le président. Alors, difficile d'évaluer l'impact de sa publication, mais on peut quand même noter qu'il y a eu pas mal d'affiches pendant quelques mois, plutôt de Chinois à l'étranger, qui étaient avec l'effigie de Xi Jinping et qui disaient « ce n'est pas mon président » ou « je ne suis pas d'accord ». Donc, effectivement, il se retrouve emprisonné à Pékin. Rapidement, il est envoyé, transféré à 800 km là, à Xuzhou, dans le Xinjiang. Et Yu Wensen est coupé du monde complètement pendant 30 mois. Il n'y avait aucun moyen de savoir ce qui se passait dehors. Chaque jour, j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'en sortir. Il était dans une cellule, aux fenêtres scellées, couvertes d'épais rideaux, afin que le détenu perde le sens du temps, et 21 policiers se relaient jour et nuit pour le surveiller. Ces journées se déroulent dans une salle d'interrogatoire. Assis sur une chaise métallique, Yu est soumis à d'interminables séances de torture, jusqu'à ce que son corps se paralyse. Il témoigne. S'il y avait eu un verre d'alcool empoisonné devant moi, je l'aurais bu d'un trait. J'aurais choisi la mort, évoque-t-il avec effroi. Alors, il est jugé à huis clos en 2019. Ses avocats n'ont aucune connaissance du jugement. En 2020, le jugement n'est pas rendu public, mais l'avocat va pouvoir rencontrer son client. Et à partir de ce moment-là, donc il est condamné à 4 ans de prison ferme pour incitation à la subversion du pouvoir de l'État. Amnesty, à ce moment-là, donc en 2020, dénonce une persécution politique travestie en procès judiciaire. Alors, 2 mois plus tard, la vie de Yu se reconnecte enfin au monde extérieur et pour la première fois depuis son arrestation, le 14 août 2020, ses avocats ont l'autorisation de lui rendre visite. Il confie alors avoir été aspergé de gaz poivre et maintenu de force sur la chaise pour des tortures jusqu'à perdre connaissance. Son épouse, elle doit encore patienter pendant 3 ans pour leur retrouvaille autorisée via Internet. J'avais tellement peur qu'il ne soit plus de ce monde, soupire aujourd'hui Xu Yan. Alors, quand elle voit en visio, donc en janvier 2021, elle note immédiatement le visage pâle de son mari, les dents manquantes et le tremblement de sa main. Le 1er mars de cette année, il est libéré sous surveillance et il peut rejoindre sa famille. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, bon, il a des séquelles, il ne peut plus écrire avec sa main droite, mais il ne s'arrête pas et qu'il a dernièrement, avec Twitter, proposé plusieurs amendements à la charte des Nations Unies. Pour son confrère, pas de doute, l'empreinte de l'avocat Yu Wenchen marque l'histoire des droits de l'homme en Chine. Et là, on peut lui dire qu'une seule chose, bravo oui, et bon courage.
C'est sûr, parce que bon, c'est sûr que défendre les droits humains en France...
En Chine, et continuer, Chine, et pas lâcher...
Ça n'a pas le même sens, donc, c'est sûr. Voilà. Même si les combats sont les mêmes, ça n'a pas le même sens, et les risques non plus.
Allez, culture
comme d'habitude...
Non, il y avait une pause musicale.
Ah, comme, belle enfant
comme t'as bien débordé, belle enfant.
C'était trop long.
Comme tu vas nous rogner la culture.
Comme d'habitude, le temps passe trop vite, donc quelques secondes de musique. Sur l'antenne de Principe Actif. Bon, on a un petit peu écourté le morceau pour gagner un petit peu de temps. C'était un morceau des révolutionnaires en Birmanie. On parlait de la Birmanie tout à l'heure. Voilà, mais je ne parle pas le birman. Maintenant, Carlise, tout de suite, c'est à toi.
Oui, alors j'avais prévu de faire deux articles sur la culture, en hommage à mon amie Mina qui n'est pas là. Donc je voulais vous parler du film des Frères Dardenne, qui c'est une fiction sur qui parle. Donc le film c'est Tori et Lokita. C'est un film de Luc et Jean-Pierre Dardenne et qui est sorti le 5 octobre en France. Donc je pense que vous allez en entendre parler beaucoup. Il est soutenu par la CIMAD et c'est un film très intéressant dont on reparlera. Mais là aujourd'hui il y avait un autre article qui est dans la chronique sur une photographe. Donc ça c'est un petit peu moins connu, j'avais envie de vous en parler, donc Leka Singh. Donc c'est le Musée de l'Homme qui expose jusqu'au 2 janvier une cinquantaine de portraits de femmes, des clichés, pris par la photographe américaine Leka Singh, qui nous transporte aux quatre coins de la planète. Ces clichés rendent hommage à la force et au courage de ces millions de femmes dans le monde, parcourant chaque jour des dizaines de kilomètres à pied, avec des charges surhumaines sur leur tête, sur leurs épaules, pour nourrir leur famille et leur communauté. Donc cette exposition, c'est « Les femmes portent le monde ». C'est au Musée de l'Homme, 17 place du Trocadéro, au 16e arrondissement de Paris. Et c'est jusqu'au 2 janvier, je vous invite à aller la voir. Donc je vous en parlais quand même un tout petit peu. Un sac de riz sur la tête, une femme traverse à pied les dunes du désert du Rajasthan. Elle s'en servira pour préparer un repas à sa famille dès qu'elle arrivera chez elle, après plusieurs heures de marche. Gracieuse dans son sari aux couleurs vives aériennes, sa beauté éclate sur la photographie. Mon travail est né d'un choc esthétique, d'une curiosité quasi scientifique de cette interrogation. Comment font-elles pour marcher de manière si légère et porter avec tant de grâce ces poids immenses ? Explique Leka Singh. Partout dans le monde, ces femmes parcourent de très longues distances pour s'approvisionner en eau potable, en bois, en matières premières et subvenir aux besoins de leur famille. Et depuis 25 ans, cette photographe américaine sillonne la planète, fascinée par la force de ces femmes. Chacune porte une part du monde sur son dos, sur sa tête ou sur ses épaules, bravant les longues distances, la fatigue, l'insécurité des routes. Elle prend le temps d'écouter leur histoire, de s'attarder au sein de leur communauté, d'essayer de les comprendre. Elle ne parle pas de sa vie personnelle, elle ne veut pas en parler, précise-t-elle, en début d'interview, d'une voix douce. Ce qui est important, c'est de parler de mon travail et de cette exposition. Tout juste acceptera-t-elle de dévoiler comment elle est devenue photographe par accident un jour. J'ai pris l'appareil photo de ma fille, je suis partie me promener avec elle et je ne l'ai plus jamais lâchée. Cette vocation tardive l'amènera à s'engager comme photographe pour des ONG, à cultiver sa patience. Je pense à cette exposition depuis des années. Je cherche à montrer la beauté et le courage de ces femmes indispensables à la survie de la société, de leur société. Je ne démontre rien. Chacun peut interpréter les photos à sa manière. Donc c'est suggérer plutôt que dénoncer. Bon, l'article, il est très intéressant, mais forcément, on a peu le temps de tout le détailler. Donc peut-être que on reviendra dessus parce que c'est vraiment une très, très belle exposition. Et je vous invite à aller la voir si vous passez par Paris, bien sûr, parce que c'est pas à Évreux. Mais ce sont des clichés qui sont magnifiques. Et je trouvais que le titre « Les femmes portent le monde », bah voilà, ça, c'est dans la suite des temps qu'on a passé pour parler des femmes. Je remercie Edith de m'avoir...
C'est un très beau condensé, c'est très très bien.
C'est un très beau titre. Bon, je sens qu'il y a un petit peu d'animosité entre vous deux là.
Non, mais non.
Non, mais je plaisante. Bon, on va arriver à toucher au terme de l'émission. Quelques infos locales, mais je voulais quand même avant vous donner une information qui me paraît importante. Bon, par ailleurs, le fait d'être militant amnistie, je suis également membre de Greenpeace, mais j'ai reçu aujourd'hui un mail qui m'a absolument sidéré. Et donc, qui viennent Greenpeace, et je voulais vous en parler. Voilà ce que dit Greenpeace. La semaine dernière, un abonnement extrêmement dangereux et liberticide a été adopté en commission des finances à l'Assemblée nationale lors de l'examen du budget 2023. Cet amendement vise à supprimer les avantages fiscaux accordés aux donateurs et donatrices des associations dont les militants se rendraient coupables d'intrusion sur des sites agricoles ou industriels. En clair, cet amendement vise à museler les associations comme Greenpeace, qui utilisent la désobéissance civile non violente pour lancer l'alerte sur les enjeux environnementaux et pour défendre l'intérêt général. Alors qu'un millier de scientifiques a appelé à désobéir pour faire face à l'urgence climatique, des députés souhaite sanctionner les associations qui utilisent ce mode d'action légitime. Donc voilà, moi j'ai reçu ça aujourd'hui, j'ai été absolument estomaqué. Ça rappelle là aussi des choses qu'on n'a pas envie de voir arriver chez nous, hein, de couper les subventions par rapport aux associations qui s'occupent d'environnement et de la défense des droits, puisque les droits de l'environnement et les droits humains, on parle de la même chose, ça je pense que vous le savez tous, donc sous des formes différentes, mais on parle de la même chose. Donc commencer à s'attaquer aux donateurs et aux donatrices qui permettent à ces ONG et à ces associations de vivre. Et c'est fait en France, c'est proposé en France, c'est pas encore voté, mais c'est proposé. Ça commence à devenir absolument intolérable. Donc voilà, vous allez sur le site de Greenpeace, greenpeace.fr. Vous avez des mails à envoyer et des actions de soutien à faire. C'est en première page quand vous arrivez sur le site. Et surtout que vous soyez membre de Greenpeace, militant de Greenpeace ou pas, faites-le. Parce que là, effectivement, on est vraiment sur une pente plus que dangereuse pour nos propres droits ici en France.
Et après, ils vont s'attaquer aux donateurs des associations pour les droits humains, la défense des migrants, etc. C'est la porte ouverte.
Tout à fait. Et on rappelle que les actions de Greenpeace, qui est effectivement visée par là, entre autres, avec d'autres, ce sont des actions de désobéissance civile, bien évidemment, mais toutes non violentes et qui ne remettent en cause et qui ne comportent de danger pour la vie de personne. Donc, utilise ça comme argument pour dire ce serait peut-être bien qu'on leur coupe les finances. Franchement, ça devient...
Bref, très inquiétant.
Point de suspension. Donc, on va passer aux infos locales. Alors, on en a plusieurs. Tout d'abord, réservez votre journée du jeudi 10 novembre. C'est dans un peu plus d'un mois. Enfin, c'est dans un mois. Votre journée 10 novembre, Amnesty International Région Haute-Normandie organise un forum dont le thème, justement, est changement climatique et droits humains. On vous donnera un programme très détaillé dans la prochaine émission, celle du mardi 25. Mais on vous en parle déjà pour vous réserver votre journée.
Oui, parce que c'est à Évreux. La région est à Évreux.
Voilà. Et ça se passe au lycée Aristide Briand dans la salle de conférence. Jeudi 10 novembre de 9h à 17h, forum avec plusieurs intervenants, vous aurez le détail dans la prochaine émission, plusieurs intervenants sur le thème changement climatique et droits humains. Et puisqu'on parle aussi de... Alors, c'est pas nous, mais c'est des gens qu'on connaît bien.
C'est du copinage.
C'est un peu de copinage, effectivement. Vous avez dans la même salle de conférence du lycée Aristide Briand, mais là, c'est le vendredi 14 octobre, donc c'est beaucoup plus près. Une conférence dans le cycle de l'Université populaire d'Évreux. On est très contents de leur faire un peu de publicité. Et cette conférence s'appelle « Quelle agriculture pour demain ?» Donc je pense que c'est effectivement aussi quelque chose par rapport à l'environnement et à nos droits à une alimentation saine qui peut être très intéressant. Donc c'est le 14 octobre, 18h30, au lycée Aristide Briand, salle de conférence. Voilà donc deux dates. Prochaine émission pour nous, c'est le mardi 25, comme je vous disais. Donc 19h à 20h en direct sur l'antenne de Principe Actif. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter, pas pu écouter notre dernière émission du jeudi 6, c'était le 6, je crois,
oui.
Claire-Lise, notre émission Fréquence Droits Humains, dans une autre série de cycles d'émissions qu'on anime avec Principe Actif. Donc Fréquence Droits Humains, qui était consacrée aux droits des enfants, qui était retransmise en direct depuis les locaux de l'association La Cause des Enfants. Et donc, réécoutez le podcast, il est en ligne sur le site de la radio, principeactif.net, dans la rubrique donc Fréquence Droits Humains. Et on vous rappelle aussi que toutes nos émissions, depuis très longtemps, sont en podcast sur le site de la radio, dans la rubrique Amnesty International. Voilà.
Je crois que c'était bien dit.
C'était tout, je crois, au niveau des infos locales. J'insiste pour le côté Greenpeace à l'action, effectivement, par rapport à cette
proposition. De toute manière, allez vous renseigner, parlez-en autour de vous. C'est vraiment une info qu'il faut diffuser au max. Ça.
Voilà. Moi, je l'ai découvert aujourd'hui et franchement, j'avoue que les bras m'en sont tombés sur le cou en disant on est en train de tomber là-dedans. Quoi.
Parce qu'en plus, il faut quand même dire que Greenpeace, ça fonctionne avec nos sous. C'est les adhérents qui payent. Quoi. Voilà.
C'est comme Amnesty, hein, c'est pareil.
Voilà, donc, à ce niveau-là, c'est le public qui finance. En plus, empêcher nos choix, ça va plus loin. Quoi. Effectivement, là, l'accord de enfin, l'État fait une diminution sur les impôts, mais c'est un peu louvoyer faire nos choix où ils veulent, quoi. Et ça va pas du tout. Ça.
Non, puis ça rappelle dans les pays qui bafouent de plus en plus ouvertement les droits humains, toutes ces notions de qui interdisent les ONG ou qui leur coupent le moyen de fonctionner en les accusant d'agents de l'étranger.
Alors on va
ou
dire
des choses comme ça.
Turquie, Chine, Russie. Allez, on peut en avoir d'autres si on veut faire partie du.
On avait dit qu'on finirait
à l'heure.
On est à l'heure.
On
est à l'heure.
On leur dit quoi?
Parce que Manu, il est arrivé, il fait du potin dans le
dans le studio depuis tout à l'heure.
Criez pas.
Il est silencieux. Criez
pas. Criez pas.
Là, il a fait du potin. Hein.
Criez pas dans les micros, sinon ça va saturer le son. Donc on laisse l'antenne au laboratoire et à notre ami Manu, effectivement, avec beaucoup de plaisir, qui va prendre la suite. Et nous, on vous dit rendez-vous le mardi 25 sur l'antenne de Principe Actif. Voilà.
Au revoir.
Au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.